Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro-Rebelle Hebdo. Micro-Rebelle Hebdo, c'est le magazine des luttes sociales, politiques, économiques, écologiques, dans le bassin minier et au-delà, que vous pouvez suivre en direct chaque semaine, chaque vendredi soir, à 18h sur notre site micro-rebelle.fr et rediffusé sur notre radio amie, Radio PFM, dans l'Arrajois, le samedi à 7h30, le lundi à 14h, et durant les nuits de dimanche et de lundi. Je suis avec Abou. Bonjour Abou.
Bonjour Lucien.
Et nous allons donc passer cette heure ensemble pour discuter de actualité, presse, avec également des reportages et de la musique libre.
Lucien, quoi de neuf dans la presse cette semaine ?
Alors oui, on va commencer par une petite revue de presse. Alors, nous l'avons consacrée un peu, cette revue de presse, à un article paru dans La Voix du Nord, avec en titre « Liévin, la population très peu concernée se prononce pour l'armement de la police municipale ». C'est un article d'Élise Forestier, extrait. « Faut-il armer les policiers municipaux de Liévin ?» Depuis le 13 septembre, les habitants étaient invités à répondre à cette question dans le cadre d'une consultation. Près de 15 500 foyers ont reçu un dépliant sur le sujet, avec une clôture des votes hier à midi. Les résultats sont tombés. Les Liévinois y sont favorables à 56%. Pour quelle participation ? Elle est très faible, prévient le maire, Laurent Duporge. La question n'a pas passionné, ou alors les Liévinois n'ont pas compris pourquoi on les consultait. Le journaliste poursuit. Elle est même infime, cette participation. 3%. Déjà, en 2016, le référendum sur la création d'une police municipale avait faiblement mobilisé, avec 18% de participation. Fin de citation. Cet article nous permet d'aborder deux thématiques. Tout d'abord, la question de la vie démocratique dans nos villes et nos villages. Est-il vraiment sérieux de prendre une décision aussi importante que l'armement des policiers municipaux après une consultation à laquelle n'ont participé que 3% de la population ? Au passage, cela nous donne une indication sur ce qui pourrait se passer à un niveau plus général et notamment au niveau national dans le cas où de moins en moins de gens iraient voter. On entend en effet régulièrement des camarades qui disent « quand il n'y aura plus de votants, ils ne seront plus légitimes pour gouverner et ils se remettront en cause ». Eh bien, on voit ici, sur un exemple local, qu'il n'en est rien. Même avec 3% de votants, le conseil municipal de Liévin s'apprête à armer sa police. Le maire de Liévin, rapporte La Voix du Nord, avait notamment déclaré « celui qui vient voter est celui qui a raison ». Alors on est loin du communalisme, tel que nous avons pu l'évoquer au moment des 150 ans de la Commune de Paris. Un communalisme synonyme de démocratie directe, avec des assemblées de quartier, avec des débats préparatoires, bref, synonyme de démocratie revivifiée. Alors la seconde thématique que l'article de La Voix du Nord nous permet d'aborder, c'est bien sûr cette question de l'armement de la police municipale et plus généralement, les questions de sécurité. On connaît les arguments des élus. La police nationale et la gendarmerie se consacrent à la menace terroriste et il faut donc bien une police de proximité pour pallier à la petite délinquance et aux incivilités. Et c'est ainsi qu'un tabou est tombé. Même les villes de gauche s'équipent d'une police municipale. Il est par exemple annoncé que la ville de Saint-Amand-les-Eaux, dirigée par le Parti communiste, devrait se doter d'une police municipale au premier trimestre 2022. Et donc, en matière de sécurité, les villes de gauche s'approprient et relaient les thèses de la droite et de l'extrême droite. L'article de La Voix du Nord, auquel nous faisons référence, indique notamment, à propos de l'armement de la police municipale de Liévin, je cite « C'est une très bonne chose », se réjouit pour sa part Christelle Delaporte, élue Rassemblement National, Fin de citation. On a ainsi une décision d'une ville de gauche du bassin minier qui reçoit les félicitations du Rassemblement national. Et si on changeait de perspective ? Les polices municipales armées, la vidéosurveillance, les drones, le tout sécuritaire, est-ce cela qui peut remédier à la misère sociale, au mal logement, aux fins de mois difficiles, aux bas salaires, à la précarité, aux conditions de travail dégradées, au racisme, au sexisme, etc. L'important et l'urgent, c'est de faire reculer le déclassement social et de bâtir une nouvelle société. Les polices municipales, armées ou non, n'y pourront jamais rien. Voilà, mais écoutez, après cette actualité locale, je vous propose tout de suite une musique du jazz avec un saxophoniste et compositeur portugais, Desiderio Lazzaro. Et il est accompagné par le pianiste Daniel Bernardes. On écoute Stillness in Time.
C'était de la musique libre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on écoute ?
Eh bien, maintenant, je vous propose une petite pastille sonore. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse l'écouter et on en discute tout de suite après.
Alors, s'organise à la CNT avec un ensemble de collectifs, syndicats, associations engagées. La venue des zapatistes, toute une délégation zapatiste en octobre à Lille. Est-ce que tu veux m'en dire un petit mot ?
Oui, alors là, on sort d'une très longue réunion, mais et on est tout le monde à le sourire, on est plein et plein d'enthousiasme, voilà, parce qu'on a enfin des dates qui sont à peu près fixes pour la venue de donc d'une sous-délégation de 5 et plus personnes en provenance du Chiapas, en tous les cas zapatistes, qui vont arriver donc dans la région des Hauts-de-France, comme on dit, donc du 25 au 31 octobre. Et voilà.
Donc un petit programme s'organise à la fois pour que des collectifs du coin les rencontrent, que eux les rencontrent, mais aussi que nous lions. Finalement, tous ces collectifs engagés, c'est une bonne occasion de s'auto-organiser. C'est l'objet des zapatistes, justement, l'auto-organisation.
C'est vrai. Et là, c'est une organisation en plus entre organisations. Alors autant dire que, c'est, comme on dit, c'est les difficultés au carré, quoi. Et donc voilà, donc l'objectif de cette tournée, c'est que les zapatistes rencontrent et découvrent les luttes qui ont lieu dans la région, en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Et parce que c'est, voilà, il faut rappeler que les zapatistes sont des personnes qui sont en lutte depuis très longtemps. Et qui en fait ont inspiré énormément de luttes en Europe, à qui on a demandé beaucoup aussi en termes d'explication de leur lutte, mais aussi une de leurs caractéristiques, c'est d'être extrêmement à l'écoute des luttes d'ailleurs et qui cherchent aussi à s'en inspirer. Ça, c'est pour toujours cette volonté de recréer des rapports d'égalité entre les luttes et se rappeler que on est tous et toutes. Enfin, en tous les cas, on veut tous et toutes lutter depuis en bas à gauche, comme ils disent, et elles disent, pour, on va dire, lutter contre en haut à droite, quoi. Mais voilà, donc on a prévu de permettre et de faciliter la rencontre entre ces zapatistes et des personnes qui sont en lutte sur différents axes, que ce soit sur les axes du logement, les questions urbaines, que ce soit les axes de autour des personnes qui quittent leur pays, qui soit veulent s'installer en France, soit veulent continuer leur voyage pour arriver, par exemple, en Angleterre, comme c'est le cas à Calais. Mais c'est également toutes les personnes qui vivent en ville dans des conditions qu'elles n'ont pas choisies et que nous, on peut considérer comme étant indignes. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? J'en oublie forcément.
Agriculture paysanne, peut-être ?
Eh bien oui, ça c'est pas sympa. Oui, j'ai oublié l'agriculture paysanne avec donc des rencontres avec des personnes qui s'organisent pour faire en sorte que la terre ne soit pas accaparée par les grands propriétaires et que ce soit toujours la prime au plus costaud, au plus fort, au plus riche.
C'est une de leurs luttes, ça, hein, d'éviter l'appropriation des ressources d'abord dans leur pays, mais la solidarité internationale fait que ça va les intéresser, ça.
C'est exactement ce que j'ai compris aussi.
Alors, il y a d'autres thématiques peut-être, on a parlé de solidarité internationale, immigration, et puis il y a également les luttes d'égalité hommes-femmes. Ils essayent d'avoir une organisation horizontale et également de mettre sur un pied d'égalité les hommes et les femmes dans leur façon de fonctionner.
Tout à fait, et puis même au-delà de ça, puisque au-delà de la binarité hommes-femmes, puisque dans la première délégation qui arrivait en bateau en Europe, l'escadron 4-2-1, il y avait donc 4 femmes, 2 hommes et une personne transgenre. Donc voilà, c'est les organisations de femmes, les organisations féministes et les organisations LGBT, queer, qui seront également rencontrées lorsque cette sous-délégation zapatiste arrivera fin octobre.
C'est un super programme tout ça. Il y aura aussi un plateau radio.
Oui, avec les dans le collectif Zalig là, donc zone d'accueil des luttes intergalactiques. On peut dire que les gens qui font de la radio sont assez bien représentés. Tella et puis il y a aussi Rero et enfin Torre Latino et puis La Voix sans maître et puis encore Micro Rebelle et donc d'autres émissions.
Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ?
Non, merci beaucoup de faire toutes ces capsules, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois, qui permettent de raconter au fur et à mesure l'état d'esprit aussi de ce collectif Zalig qui s'est créé il y a bientôt un an, notamment, et qui se réunit régulièrement par exemple, à la CNT, comme ce soir.
Vous êtes les bienvenus à la réunion de mercredi prochain, 18h30, à la CNT. Rue d'Arras à Lille.
32 rue d'Arras. web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Oui, donc c'est une grande nouvelle, hein, l'arrivée des délégations zapatistes dans le nord de la France. Hein, ils sont en Europe, ils se sont répartis un petit peu les territoires qu'ils souhaitent rencontrer. Et donc, dans le bassin minier, on va être concerné, on aura l'occasion d'en reparler hein, lors d'un prochain micro-rebel hebdo, on va être concerné les 27, 28 et 29 octobre, où on va recevoir une délégation de femmes et une délégation d'hommes durant ces trois jours. Donc une journée le 27 consacrée aux femmes et deux journées les 28-29 octobre consacrées aux hommes. Donc ils viennent un peu pour comprendre les luttes que nous menons, les initiatives, les alternatives que nous mettons en œuvre. Donc on va leur proposer de rencontrer, bon évidemment, le LAG, Micro-Rebelle aussi, on fera deux plateaux radio, hein, un avec les femmes et un avec les hommes. Les objecteurs de croissance du Pas-de-Calais, Au Secours 62, ACAD hein, sur les questions de bien commun, le planning familial bien sûr sur les questions féministes. On va avec eux visiter des entreprises coopératives, des entreprises autogérées, des associations de femmes. On ira également dans une ferme en agriculture paysanne. Alors peut-être rappeler ce que sont les zapatistes, ce qu'est le Chiapas, le territoire mexicain de où ils viennent. Et puis, l'objet de cette visite qu'ils et elles nous font en Europe. Alors, après 500 ans de colonisation du Mexique, les zapatistes, ce sont donc des communautés indigènes du Chiapas, qui construisent leur autonomie depuis le soulèvement de 1994. Les zapatistes, donc, est le Congrès national indigène qui rassemble les peuples autochtones en lutte contre leur extermination et contre le saccage capitaliste, ont décidé de traverser l'océan Atlantique. Cette grande délégation, constituée en majorité de femmes, vient exprimer que les communautés autochtones du Mexique n'ont toujours pas été conquises et elles viennent aussi rencontrer les luttes européennes sur leur territoire afin de tisser des alliances et de partager des convictions et énergies communes, la défense de la vie, l'autonomie politique et le combat contre toutes les formes de domination. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conquête inversée? Qu'est-ce que c'est que ce voyage pour la vie? L'expérience du Chiapas donne énormément d'espoir, car il y a peu d'alternatives à notre système occidental. Et au Chiapas, ça fonctionne. Il y a toute une organisation politique. Ils construisent des écoles, des hôpitaux, et prennent en compte la poésie, le droit des femmes, la lutte pour la reconnaissance des personnes trans, etc. Les zapatistes ont expliqué qu'ils venaient pour échanger, c'est-à-dire pour parler et plus encore pour écouter avec toutes celles et ceux qui les ont invités pour parler de nos histoires mutuelles, de nos douleurs, de nos rages, de nos réussites et de nos échecs. L'objectif du voyage, c'est donc de relier les luttes partout dans le monde. C'est une magnifique geste décolonial et féministe du Chiapas vers l'Europe et les restes du monde. On aura l'occasion d'y revenir à Micro-Rebelle et dans Micro-Rebelle Hebdo.
Cette arrivée des zapatistes, ça promet d'être bien. Et je vous rappelle que vous êtes dans Micro-Rebelle Hebdo sur le site www.micro-rebelle.fr et aussi sur la radio locale PFM.
Alors on va poursuivre à bout, on va poursuivre avec un nouveau reportage. Cette semaine, il y a eu le mardi 5 octobre et c'était une journée de lutte, de mobilisation pour la défense des retraites, pour lutter contre la réforme du chômage et pour l'augmentation des salaires. Donc c'était une journée interprofessionnelle. Micro-Rebelle a participé à plusieurs manifestations. Je vous propose tout de suite d'écouter un petit reportage sur la manifestation de Lens. Nous y étions et nous avons tendu notre micro aux salariés, aux manifestants et aux manifestantes, avec une préoccupation. Comment est-ce qu'ils et elles imaginent combattre les nombreuses attaques patronales et gouvernementales et ancrer localement un mouvement social sapé par les confinements successifs? On les écoute maintenant. Manifestation à Lens, mardi 5 octobre.
« Ce mardi 5 octobre, manifestation interprofessionnelle, manifestation organisée sur les bases suivantes. Premièrement, combattre l'assurance chômage. Deuxièmement, défendre les retraites. Troisièmement, augmenter les salaires. Micro-Rebelle était à Lens, où la manifestation s'est déroulée sous une pluie battante. Je vous propose tout d'abord d'écouter l'allocution du représentant de la CGT devant la sous-préfecture de Lens, allocution qui retrace les enjeux de la journée aux yeux des syndicats organisateurs.
Alors nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une manifestation, dans le cadre d'une journée d'action du 5 octobre pour dénoncer les régressions qui sont en cours, notamment sur la protection sociale et le service public. Le gouvernement a fait son choix déjà, il a fait le choix de la finance, ce qui démontre les réformes en cours sur l'indemnisation Pôle emploi et de nouveau la réforme des retraites qu'on nous met sur la table. Donc on cible à la fois les précaires, les retraités et les futurs retraités, le monde du travail, en soi-même, le monde du travail. Le gouvernement, lui, comme je vous l'ai dit, a fait gage à la finance. On prend l'exemple notamment de ces millions et ces millions qui ont été versés aux entreprises dans le cadre du quoi qu'il en coûte. Pour vous donner quelques chiffres, 100% des entreprises du CAC 40 ont été aidées et seulement 6 de ces entreprises ont eu des résultats déficitaires. Ces aides, ils ont été données sans contrepartie sur l'emploi et sur les salaires. Donc, un autre exemple aussi. On est là aussi, dans le cadre de cette manifestation, de cette journée d'action, non pas pour dire non, mais aussi dire oui, à un juste partage des richesses. Notamment, je rappelle que sur les profits qui sont enregistrés par le CAC 40, sur 100 profits, 67% des profits partent aux actionnaires, 27 à l'investissement et seulement 6 dans les poches des salariés. Et derrière ça, on a le dernier scandale financier qui vient de sortir, Pandora Papers, où on voit qu'on a des politiques qui sont impliquées et qui étaient en charge des deniers publics. On a énormément de questions à se poser entre les liens qui existent aujourd'hui entre la politique et la finance. Je vous donne un exemple. Il y a un nom qui sort là. Alors, je dirais pas que c'est marrant, mais comme quoi on peut avoir quelquefois du retour de bâton. On a Nicolas Perruchot qui est soupçonné d'avoir un compte aux Seychelles secret. Cet homme qui avait été l'auteur d'un brûlot sur le financement des syndicats et qui est notamment l'auteur d'une loi sur la transparence financière des comités d'entreprise. Vous voyez quand même, cette personne avait le culot d'aller dire comment il fallait faire alors qu'elle, derrière, elle est soupçonnée d'avoir son compte aux Seychelles. Donc il y a de l'argent. Hein, selon les rapports, les différents rapports, on voit qu'on évalue à plusieurs dizaines de milliards dizaines de milliards d'euros qui s'échappent dans le cadre de l'évasion fiscale. Et derrière ça, d'autres dizaines de milliards qui, eux, s'échappent dans le cadre de l'optimisation fiscale par des montages financiers qui sont légaux en Europe. Tout cet argent-là manque cruellement aux services publics. On avait une estimation d'une ONG indépendante qui avait fait la simulation, 17 milliards d'évasion fiscale, dont 12 milliards attitrés aux entreprises. Ça représentait 500 000 emplois dans la fonction hospitalière, fonction publique hospitalière. Vous voyez, dans le cadre de la pandémie, on était dans le cadre de la pandémie. Ces emplois qui manquaient, on aurait pu les financer rien qu'en récupérant ces milliards. Alors, je vous disais que le gouvernement a fait son choix. Puisque le choix du gouvernement, c'est pas de lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale, de ne pas en faire une priorité. Non, son choix, c'est de suivre le diktat européen qui, pour, encore une fois, équilibrer et sauver ses marchés financiers, injecter plusieurs milliers et des milliers de milliards dans le marché obligataire pour sauver ses bourses. Et au final, qui va payer? Qui devrait payer pour eux? Ben c'est toujours les plus précaires, les plus fragiles, les salariés. Alors on avait raison d'être là aujourd'hui, on aura encore raison de militer et de s'organiser pour essayer de faire en sorte que tout ça, ça change.
Nous avons tendu ensuite notre micro aux salariés, manifestantes et manifestants, avec une préoccupation, comment il et elle imaginent combattre les nombreuses attaques patronales et gouvernementales et comment il et elle imaginent ancrer localement un mouvement social sapé par les confinements successifs. Alors que la réalité de la lutte des classes se traduit aujourd'hui d'un côté par l'augmentation des licenciements et de l'autre par des dividendes records, d'un côté par le déclassement social et de l'autre par l'explosion de la richesse des capitalistes, il nous a semblé important de comprendre comment les salariés imaginent amorcer un véritable rapport de force et mettre en œuvre la voie d'une contre-offensive du monde du travail.
Les mobilisés toujours restent mobilisés. Maintenant, comment convaincre de nouveau, c'est compliqué. Ça profite forcément.
Ça profite, c'est-à-dire ?
Au patron et aux directions.
La réponse à toute cette question-là, c'est que c'est pas évident à mobiliser les personnes. Et c'est vrai que ça fait déjà des années et des années, voire des décennies, où il y a des problèmes avec le capitalisme. Et malheureusement, c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent, c'est toujours les mêmes qui s'appauvrissent. Donc maintenant, il faut se mobiliser, c'est pas évident. C'est, financièrement, les gens, c'est pas facile à perdre une journée de salaire. Et ce sera toujours d'ailleurs de plus en plus dur même, hein, parce que ce n'est pas les petits salaires qui pourront manifester et perdre une journée. Et donc il faut le faire quand même, parce que c'est que par la mobilisation on pourra trouver une solution à ce problème. Hein.
Toutes les familles de tout genre pour qu'ils se bougent. Il faut que tout le monde se bouge. Une mobilisation vraiment générale, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il faut que les familles se bougent pour récupérer ce que l'État lui vole, en gros. Pour moi, maintenant, je pense que la lutte sociale, ça va être la radicalisation totale. C'est-à-dire, il va falloir que les gens, qu'ils passent à l'extrême pour récupérer ce qui leur a été volé, point barre. Pour moi, c'est ça. Tant qu'il n'y aura pas ça, ils vont nous bouffer jusqu'à l'os.
Moi, je dirais, limiter la consommation. Moins on consommera, moins l'industrie, elle tournera, moins il y aura de pognon dans leur caisse. Voilà. Éviter d'acheter de l'inutile, les marques et compagnie.
Donc là, moi, je suis là pour Lutte Ouvrière, pour parler de tout ça, effectivement. On voit tout le monde voit les prix qui augmentent. Ce qu'on dit, nous, c'est que les salaires devraient suivre en prenant sur les profits. Et ça, on pourra la poser que dans un rapport de force. C'est pour ça que c'est bien qu'aujourd'hui, il y ait des gens, des militants, des travailleurs qui soient là en se disant il faut se battre pour ne pas se laisser faire par rapport au patronat qui licencie et qui ne veut pas rogner sur ses profits. En étant là aujourd'hui, c'est un premier pas et on espère bien que d'autres travailleurs se regrouperont dans les entreprises et ailleurs pour faire face à l'offensive du patronat.
Moi, je rajouterais que ça fait trop longtemps que ça dure, que les salaires n'augmentent pas, quoi. Hein, ça fait trop longtemps, quoi. Hein, c'est pas d'aujourd'hui et voilà, il faut se battre. Il faut se battre.
C'est pas possible de vivre avec des salaires de misère, quoi. Et puis, il faut se défendre.
Dans ma boîte, chaque NAO, des demandes salariales. Il y a la question aussi du partage de la richesse qui se pose. Hein. Jusqu'à présent, nous, on a une participation en bénéfices. qui est versé, hein, participation. Mais on pourrait demain avoir par un montage financier ne pas l'avoir. Hein, et derrière, on pourrait tomber sur une politique d'austérité. On voit bien que les gains de productivité qui sont faits par la mécanisation, ils ne sont pas redistribués à part égale entre le salarié qui, lui, reste seul sur le poste de travail et ce qui est remonté en dividendes aux actionnaires. Ben, la température, c'est que les inégalités se creusent du fait qu'il n'y a pas ce partage de richesses, ce juste partage de richesses. On voit la jeunesse qui, elle, jetée dans les files d'attente dans les banques alimentaires, les associations pour pouvoir manger. Il y a derrière les plus précaires qui vont se retrouver avec la réforme Pôle emploi avec 300 euros de moins à la fin du mois. On est en train de jeter les gens dans une colère qui sera juste. Ce sera une juste colère. Et nous, organisations syndicales, on sera toujours là dans la cohérence de lutte pour justement renverser et construire autre chose que ce système capitaliste qui est en train de nous asphyxier.
Bah en se battant comme on fait aujourd'hui, contre les profits, les salaires qui sont beaucoup trop élevés, quand un patron gagne 300 fois le salaire d'un ouvrier, c'est tout ce rapport qu'il faut changer, il faut de l'argent pour tout le monde pour vivre décemment, c'est pour ça qu'on se bat, quoi. Avec mes collègues, ça se passe bien, mais il n'y a pas de motivation, ils ne suivent pas. Ils adhèrent complètement à notre discours, mais malheureusement, ils ne sont pas dans la rue comme aujourd'hui, quoi. Comment je l'explique ? Y a beaucoup de gens qui baissent les bras, qui pensent que, en fait, c'est pas en leur pouvoir, qu'ils auront, que ce soit avec un bulletin de vote ou que ce soit au niveau des élections en France ou au niveau syndical, ils estiment qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Donc, nous, on y croit. On se dit que si on était là tous dans la rue aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de poids vis-à-vis du gouvernement. Maintenant, voilà, je ne sais pas, il y a un ras-le-bol des politiques, il y a un ras-le-bol des syndicalistes. Il faut aussi qu'on se pose les questions parce qu'ils ont tous l'impression qu'on ne fait rien. Alors que non, il y a des gens qui ont des convictions. On en rencontre plein autour de nous, là, sur la manif. Mais malheureusement, on n'arrive pas à faire passer le message. C'est dommage. Pourtant, c'est leur avenir. C'est leur avenir qui est concerné.
À mon avis, faudrait déjà baisser le pouvoir des actionnaires et redonner un petit peu plus au bas de la pyramide. Parce que les dividendes, les bénéfices, tout augmente, il n'y a que les salaires qui ne montent pas.
Alors aujourd'hui, il y a une très très mauvaise répartition. On distribue d'abord aux actionnaires et puis on ne distribue plus aux salaires. Et on en arrive à un point où, chez Veolia par exemple, on a des NAO tous les ans qui sont à 0%, alors qu'on distribue tous les ans des dividendes de plus en plus importants aux actionnaires. Donc il faut stopper cette hémorragie et vraiment commencer à distribuer aux personnes qui exercent le travail en premier avant de distribuer aux actionnaires, même s'il en faut aussi. Il faut une répartition qui soit juste et non pas unilatérale comme ça a lieu aujourd'hui.
Déjà, le problème, c'est que tu as beaucoup moins de monde à l'heure actuelle gréviste, vu que tout le monde y est tenu au collet par rapport à son salaire. Une journée de grève, en gros, tu perds 70 euros. 70 euros pour un couple où il n'y a qu'une personne qui travaille, c'est énorme. C'est le plein de la bagnole sur le mois, c'est la moitié des courses. Donc, on comprend que les collègues suivent plus les mouvements de grève, mais... À un moment ou à un autre, il va falloir que tout le monde se réveille un petit peu et qu'on se dise aussi, si on veut plus, il va falloir qu'on fasse des bonnes manifs comme on a fait il y a 15-20 ans. Parce qu'il y a 15-20 ans, on avait du poids et on arrivait à avoir ce qu'on voulait.
On essaye de plus en plus de remotiver les troupes, comme on dit, mais comme on dit mon collègue, et effectivement, il faut qu'on reprenne le pouvoir de force qui est important dans ce genre de négociation. Malheureusement, la situation Covid et la situation de la société à aujourd'hui fait qu'on est arrivé dans une société un peu individualiste. Chacun pense à soi et on a du mal à rassembler, mais il faut vraiment que les gens prennent conscience que sans pouvoir de force à aujourd'hui, la négociation salariale est de plus en plus dure et il faudra passer par là pour se faire entendre et puis qu'on cesse un petit peu cette situation qui, pour moi, depuis une dizaine d'années, même bien plus, mais vraiment depuis 10 ans, on ressent qu'elle est de pire en pire. Aujourd'hui, chez nous, chez Veolia, on nous a fait miroiter depuis un an et demi qu'on était les meilleurs, qu'on était une profession primordiale avec des SMS de remerciements tous les 4 semaines. Merci pour ce que vous faites pendant le Covid. Et aujourd'hui, encore à la dernière NAO, et ben on est à zéro. Donc merci, mais on vous donne rien, on donne aux autres. Mais là, on est vraiment dans cette société d'individualisme qui fait tort justement et qui donne le pouvoir de plus en plus important aux patrons et qui en ont pris conscience. Ils savent que derrière, ils ont la force de pouvoir profiter de cette société d'individualisme.
On peut le constater. À l'écoute de notre reportage, le constat des inégalités et de l'exploitation est parfaitement posé. Les personnes que nous avons interviewées expriment clairement leur mécontentement. Mais, à l'opposé, les questions de l'organisation concrète de la riposte n'apparaissent que très faiblement. Les personnes interviewées ne viennent pas construire un mouvement social d'ampleur. Cette question de la remise en mouvement des travailleuses et travailleurs, elle est posée à l'ensemble des militantes et militants, et notamment aux forces syndicales. Par ailleurs, cette journée fait suite à la mobilisation des enseignantes et enseignants, le 23 septembre, et à celle des retraités, le 1er octobre. Une telle dispersion ne s'inscrit pas vraiment dans la construction d'une large contre-offensive.
Thank you.
Alors donc, tout à l'heure, c'était un reportage sur la manifestation de Lens, hein, ce mardi 5 octobre, une manifestation interprofessionnelle. Alors, il y a eu d'autres manifestations, hein, notamment la manifestation régionale qui s'est déroulée à Lille. Et vous pourrez trouver sur notre site, hein, micro-rebelle.fr, d'autres reportages, donc notamment celui de cette manifestation à Lille. La musique que vous venez d'entendre, c'est War of Change, et c'était toujours Desiderio Lazzaro, accompagné de son pianiste Daniel Bernardès.
Est-ce qu'il y a d'autres annonces cette semaine? Si oui, lesquelles?
Ah oui, alors quelques annonces, hein, un petit agenda que nous allons vous proposer, Abou et moi. Tout de suite, alors je lance la musique de l'agenda. Et donc, cet agenda va débuter pour nous le mercredi 13 octobre avec 501 Blues. Alors un petit rappel, hein, en 1999, à Labassé, Levis, l'entreprise de jeans, Levis fermé, avec à la clé plus de 500 licenciements, majoritairement des femmes. Alors 2 ans plus tard, 5 de ces femmes montaient un spectacle, 501 Blues. Et on a la chance, hein, aujourd'hui, parce que ce spectacle est rejoué par ces 5 anciennes ouvrières devenues comédiennes. Et donc on pourra le voir ce mercredi 13 octobre au Colisée à Lens à 20h. Le tarif est de 5€. Donc mercredi 13 octobre à 20h au Colisée à Lens, 501 Blues, donc un spectacle militant en quelque sorte. Alors deuxième annonce, c'est samedi prochain, samedi 16 octobre, la France, quelle histoire ? C'est une conférence de Sylvie April. Alors Sylvie April est professeure à l'Université de Paris-Nanterre. Et donc sa conférence s'intitule « Comment écrire et penser l'histoire de la France aujourd'hui ?» Alors, elle nous proposera une réflexion sur l'histoire mondiale de la France et ses enjeux, à commencer par celui de mettre en perspective l'exceptionnalisme supposé de l'Hexagone. C'est une initiative de l'atelier d'histoire critique à la médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louis de Bétigny à Lille, et c'est à 15h. Donc 15h, samedi 16 octobre, médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louis de Bétigny à 15h. Je vous informe tout de suite qu'on aura l'occasion de diffuser cette conférence sur notre site micro-rebelle.fr en podcast et en téléchargement, mais on vous invite évidemment à aller sur place, vous y rendre pour l'écouter en direct.
Et pour terminer notre agenda, dimanche 17 octobre, Westkid, une pièce de théâtre au Lag. Il s'agit de Westkid, une comédie des deux frères Baraka. La pièce sera suivie d'un échange autour d'un thé gourmand. Vous pouvez réserver gratuitement vos places en écrivant à contact@lelag.fr.
Eh bien, merci à vous. Vous savez, on a pris l'habitude, hein, dans Micro Rebelle Hebdo de diffuser les annonces de collectifs ou d'associations amis qui nous envoient un petit peu leur collectif. Donc aujourd'hui, c'est une association dont on a déjà beaucoup parlé à Micro Rebelle, c'est l'association Terre de Liens, qui nous fait passer un communiqué concernant Jonathan Bétermier. Alors Jonathan Bétermier, c'est le maraîcher qui s'est installé à Loison. On l'a déjà interviewé à Micro Rebelle, il s'est installé à Loison et sur une parcelle de 2,3 hectares, avec justement Terre de Liens. Donc cette installation a été réalisée en maraîchage biologique et en petits élevages, hein, puisqu'il élève des petits animaux. Alors aujourd'hui, Jonathan Bétermier propose un panier de légumes et 2 distribués chaque semaine. Adhérer, c'est s'engager pour une année auprès d'un paysan pour être livré en légumes chaque semaine sur un lieu de distribution fixe. Je suis en train de vous lire le communiqué pour vous inviter à participer à cette AMAP, ce système de panier. Donc c'est un partenariat solidaire entre les consommateurs et le paysan, et tout le monde y gagne. La distribution est un temps convivial et de rencontre entre voisins, où chacun repart avec son panier de légumes et des idées de recettes. Donc la distribution a lieu le jeudi soir, de 17h30 à 19h, ici sur la zone maraîchère de la Cité du 8 à Loison-sous-Lens, rue de Vouges. Il existe deux tailles de panier pour mieux s'adapter aux besoins de chacune et chacun. Le panier de légumes annualisé garantit un revenu au maraîcher. Donc c'est le principe des AMAP, soutenir un paysan. Il connaît son chiffre d'affaires en début d'année, et cela lui permet d'aborder la saison avec sérénité et se consacrer entièrement à la production légumière qui sera totalement redistribuée aux adhérents. Donc là, aujourd'hui, on est en début de saison et il lui manque encore une vingtaine de familles pour s'assurer un revenu décent cette année. Donc c'est un système de commercialisation qui est encore assez peu répandu sur le territoire lensois, dans le bassin minier, qui ne compte qu'une seule AMAP à Angres. On a déjà aussi eu l'occasion d'interviewer nos amis amapiennes et amapiens de Angres. Donc c'est une opportunité à saisir pour bien manger, découvrir de nouveaux légumes, rencontrer ses voisins et voisines et soutenir un emploi local. N'hésitez pas, sautez le pas. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le maraîcher par courriel jonathan.bethermier, donc J-O-N-A-T-H-A-N, .bethermier, B-E-R-T-E-R-M-I-E-R, @hotmail.fr, ou encore par téléphone au 07 85 42 48 57, ou alors vous allez directement sur place lui rendre visite le jeudi soir lors de la distribution des paniers de 17h30 à 19h, donc sur la zone maraîchère de la Cité du 8 à Loison-sous-Lens, rue de Vouges. Voilà, donc ce communiqué pour vous inviter, chers auditrices, chers auditeurs, à rejoindre cette AMAP et à soutenir Jonathan de Bethermier à Loison-sous-Lens. C'est ouvert à tout le monde, évidemment, même si vous n'êtes pas de Loison-sous-Lens. Voilà, cette émission se termine. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter en podcast et en téléchargement sur notre site micro-rebelle.fr. Nous saluons nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent depuis nos amis de Radio PFM 99.9 dans la Rajoie et en DAB+. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.
Au revoir.
Au revoir à toutes et à tous. On termine en musique également.